Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Les serpentins et les cotillons sont balayés, la fête pour les 40 ans de Grenouille est terminée, mais séchez vos larmes, car revoilà tout de suite, sans attendre, une nouvelle grande tchatch, l'émission politique du ravi sur la Grenouille. Au micro, pour vous servir, Michel Guéraud du journal régional Pas Pareil qui ne baisse jamais les bras. Et avec nous, dans ce studio, alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, une élue. Cathy Racon-Bouzon, députée La République En Marche de Marseille, la ville où Macron passe désormais sa vie. Mais avant de grandement tchatcher, présentons notre invité. Cathy Racon-Bouzon, vous êtes en politique l'équivalent de la girl next door des comédies romantiques américaines. La voisine d'à côté sympa qui, mine de rien, finit la course en pole position en doublant les vieux roublards des joutes électorales. En 2017, à part la start-up En Marche de Macron, personne ne misait vraiment sur vous pour l'emporter dans la 5e circonscription, l'une des plus disputées au centre de Marseille. Vous cochez alors toutes les cases du casting idéal des troupes du futur président. Aucun engagement politique antérieur, aucun mandat, tout juste 40 ans lors de votre candidature. Et mère de 3 enfants, vous poussez le luxe de faire campagne en promenant en poussette votre petit dernier, 6 mois et pas encore toutes ses dents. Enthousiaste, vous avez adhéré dès le premier jour de la création de la République En Marche. Dernier bon point pour votre investiture, à l'image de la génération des nouveaux élus Macron, vous n'étiez pas une ancienne caissière, une technicienne de surface ou une ouvrière, mais vous étiez cadre chez Caporal, directrice de la com de la société marseillaise de prêt-à-porter. Fille d'enseignants et de grands-parents marseillais venus de Corse, installés dans le quartier des Chartreux, vous êtes diplômée de l'ESCP Europe, l'école supérieure de commerce à Paris. Avant de vendre des jeans, vous avez fait le choix de revenir à Marseille pour travailler durant 10 ans chez Pernod Ricard. Vous avez également représenté le groupe 2 années aux États-Unis. Cerise sur le gâteau de votre success story, vous avez aussi expérimenté le travail indépendant et l'entrepreneuriat en tant que concepteur-rédacteur. Mais il y a, bien entendu, un « en même temps » selon la dialectique de Manu. En même temps que la bosse de l'entrepreneuriat, vous avez la fibre sociale. Durant votre campagne, vous revendiquez des valeurs de gauche. À l'Assemblée nationale, vous êtes vice-président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. En vrac, quelques dossiers que vous avez défendus. Un projet d'audit du bâti des écoles marseillaises combattu par Gaudin. Des mesures pour développer le mécénat des TPE-PME. Un rapport sur le fléau des punaises de lit. Le soutien aux jeunes migrants isolés, les mineurs non accompagnés. Une mission sur, Dixit, les alliances entre associations, entreprises et pouvoirs publics au service de l'intérêt général. Liste non exhaustive. Au lendemain de la deuxième visite rapprochée du président, vous étiez donc l'invité idéal pour assurer le service après-vente de son plan Marseille en grand. Une petite réaction peut-être à ce portrait avant de démarrer.
Oui, merci. Bravo pour cette introduction très juste, dans laquelle je me reconnais bien, surtout la girl next door, la fille d'à côté, parce que je me plais à dire effectivement que je l'étais et je le suis toujours, et c'est un positionnement auquel je tiens.
Bon, alors Marseille en grand, c'est le nom de code donné à ce plan pour Marseille, présenté par Emmanuel Macron il y a un mois maintenant à peu près. On ne l'a jamais vu, paraît-il, sous la 5e, un président de la République qui passe 3 jours consécutifs dans une ville qui n'est pas Paris, qui est Marseille. Beaucoup d'attentes. Et là, il était à nouveau, alors beaucoup plus silencieux hein, là, pour sa deuxième visite. Pas de grandes déclarations aux médias.
Non, alors déjà effectivement pour revenir sur Marseille en grand et le côté inédit de cette visite présidentielle qui a eu lieu au mois de septembre, je pense qu'on est effectivement un territoire assez inédit et original qui a besoin d'ambition, d'audace et d'alliance, on y reviendra, puisque c'est une invitation qui a été faite par le président de la République pour travailler justement avec plus de coopération entre différents acteurs. Et donc un territoire au profil inédit, réponse inédite d'un président de la République qui effectivement est président de tous les Français, donc aussi des Marseillais, et qui a donc souhaité montrer son engagement aux côtés du maire de Marseille et d'un territoire qui lui a aussi, il faut bien le dire, sollicité pour l'appeler à l'aide. Hein.
Alors, quelle implication des députés en marche, des marcheurs, députés marcheurs de Marseille, vous êtes 4, dans la gestation et l'élaboration de ce plan?
Bah écoutez, après on a tous à la fois et des profils et des sujets de prédilection différents, donc on a de toute façon un rôle effectivement de construction en amont, de réflexion en amont, d'alerte sur ce qui se passe sur notre territoire qu'on fait remonter au gouvernement, et puis ensuite là maintenant dans la mise en œuvre du plan, on échange très régulièrement pour voir comment est-ce que cette mise en œuvre se fait, comment est-ce qu'on peut parfois être aussi une courroie de transmission, fluidifier des rapports, des tensions, des choses qui bloquerait, et puis voilà, avoir toujours cet échange à la fois avec le local et le national. Pour ma part, moi qui suis très impliquée sur les sujets d'éducation, comme vous l'avez justement dit dans votre présentation, j'ai particulièrement travaillé en amont sur la partie Marseille en Grand, sur l'état des écoles, sur le plan école, en alertant très tôt le gouvernement sur cette question, dès le début du mandat, puisque j'avais déposé un amendement dans le texte de loi sur l'école de la confiance qui demandait au gouvernement de se pencher sur cette question et de faire lui-même un audit sur le bâti scolaire marseillais pour pouvoir apporter des réponses, alors que la ville de Marseille à l'époque n'en apportait pas de satisfaisante.
Alors, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. On dit qu'il y a eu des réunions régulières en juillet à l'Élysée pour préparer ce grand plan. Vous y avez assisté, alors pas en présence de Macron, mais de ses équipes. Il y a comme ça, en tant que député de Marseille, vous êtes consulté à l'Élysée.
Bien sûr,
pour comprendre la ville.
Un député ne sert pas qu'à écrire la loi, et puis de toute façon, pour écrire la loi, il a besoin d'avoir une connaissance de son territoire. Donc, évidemment, le député, dans son travail quotidien, localement, rencontre les acteurs locaux, s'intéresse aux sujets et aux difficultés, aux défis de son territoire. Donc, sa connaissance, il se doit de la faire remonter pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là. Une politique nationale se fait sur la base d'enjeux locaux et de réalités de terrain qui ont besoin d'être résolues. Donc oui, et Matignon et l'Élysée nous sollicitent régulièrement, je ne dis pas que ça arrive tous les 15 jours, hein, mais régulièrement pour faire remonter des situations concrètes de terrain et travailler sur la construction de réponses. Ouais.
Parce qu'il y a toujours un peu cette ambiguïté dans la promesse du mouvement En Marche, c'est-à-dire cette forte incarnation, un président qui préside, qui n'est pas normal du tout hein, par rapport à son prédécesseur, et puis un mouvement qui aspirait à une forme d'horizontalité finalement, d'une certaine façon, et effectivement à faire émerger des acteurs de la société civile. Ça ne matche pas là un petit peu justement tout ce côté très solennel, ces annonces, ce spectacle politique, en fait.
Mais c'est souvent ce qu'on dit, effectivement, de ce président qu'on décrit comme étant jupitérien, mais effectivement, un président préside et décide, et ça fait partie des présidents qui concertent le plus. Il n'a de cesse de mettre en place des conventions citoyennes pour le climat, des concertations d'élus sur toutes les mesures sanitaires, un conseil scientifique, des concertations locales, pour effectivement. Donc, c'est un président qui concerte énormément. Donc, dans ce cadre-là, il entend ses élus, ses relais sur le territoire.
Alors le plan, on y vient concrètement, ben démarrons par les écoles, c'est votre dossier. Ouais. Je l'ai rappelé dans le portrait, effectivement, vous, c'était en 2019, vous avez essayé de mettre en place un audit sur l'état des écoles mené par l'État, sur l'état des écoles marseillaises, et puis le maire de l'époque, hein, Jean-Claude Gaudin, LR... n'avait pas du tout aimé, avait vu ça comme une ingérence, et puis le Sénat, dont il était quand même
assez proche,
assez proche hein, il était plus, mais il connaissait très bien les rouages, avait bloqué l'audit.
Ouais.
Qu'est-ce qui présidait déjà pour vous dans cette démarche de faire un audit? Alors évidemment, il y avait des mouvements sociaux et des collectifs citoyens qui alertaient hein, depuis longtemps, et des élus sur l'état des écoles. Mais pourquoi cet audit? Quelle était l'urgence pour vous? Et quelle est l'urgence pour vous toujours hein, sur l'état de ces écoles, du bâti en particulier?
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Il y a un élément de réponse qui est le premier, qui est que je suis marseillaise, que j'ai grandi ici, que je suis allée à l'école publique ici, et que je vis aujourd'hui dans le 4e arrondissement où mes enfants sont scolarisés à l'école publique. Donc, je suis en première ligne d'un constat quotidien sur les dysfonctionnements que peuvent vivre l'école publique à Marseille, et avec une envie plus que viscérale de la défendre et de faire en sorte qu'elle soit à la hauteur des attentes et de tous les parents marseillais, et qu'on puisse y mettre ses enfants sans se poser la question. Donc à partir de là, c'était un combat qui était propre, individuel, et qui est d'ailleurs un des moteurs de mon engagement aussi en 2017. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis allée dans la commission éducation à Marseille, pour cette défense que j'ai vraiment à cœur de l'école publique. Localement, le constat est effectivement assez triste, mais nos enfants sont scolarisés souvent dans des établissements qui sont dans un état quasiment indigne dans certains endroits. Beaucoup dans certains endroits, dans les quartiers nord de la ville, comme on le dit, mais pas que. Il y a des écoles du 4e arrondissement qui sont dans un état pitoyable, d'autres qui, l'état n'est pas pitoyable, mais nécessite des rénovations, des réhabilitations importantes aussi, etc. Donc, quand j'ai été élue et que je me suis préoccupée donc de cette question, avoir des discussions ouvertes avec la municipalité de l'époque et qui me présentait donc les plans de rénovation engagés, ce qui était à venir, le fameux PPP qui avait été combattu par différents acteurs que j'ai pris le temps...
Partenariat public-privé.
Voilà, que j'ai pris le temps de rencontrer pour voir ce qu'ils dénonçaient dans ce montage-là. Donc, en travaillant finalement tout simplement sur la réalité des faits, sur la réalité des projets qui allaient être développés, j'ai estimé que la ville seule ne serait pas capable de mener à bien ce chantier-là, ce chantier titanesque. Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, ce que j'ai vite compris, c'est que l'état des lieux des écoles, il n'était pas vraiment connu. Alors probablement que la ville avait des audits, mais qu'au final, soit manque de transparence, soit rapport approximatif, je n'en sais rien et je n'en saurais jamais rien. Le fait est que il y avait assez peu de données tangibles et concrètes de l'état des écoles de la ville. Donc j'ai estimé que, comme aujourd'hui, quand on a du mal à avancer, on demande à l'État de remplir son rôle, de garant du bon fonctionnement des institutions publiques et de la mise en œuvre des politiques publiques. J'ai estimé que c'était le rôle du gouvernement de mettre son nez sur cette question-là pour voir au moins, un minimum, avoir un état des lieux réel des états des écoles de la ville. Sachant que, effectivement, la compétence bâti scolaire est à la collectivité, à la commune, à la ville de Marseille, mais que quand l'état du bâti scolaire commence à engager l'apprentissage des enfants et les conditions de travail des enseignants, peuvent être mis en danger ponctuellement, soit détériorent les conditions d'apprentissage des enfants, c'est le rôle de l'État d'être garant des bonnes conditions de travail de leur personnel que sont les enseignants et de l'apprentissage des enfants. Donc c'était légitime que le gouvernement puisse s'en mêler.
Et là on l'a dit, donc novice en politique, novice à l'Assemblée nationale, voir un maire dire bloquer cette démarche-là, ça vous a inspiré quoi?
Ça m'a pas vraiment surprise, mais ça m'a écœuré en fait. Ça m'a écœuré parce que c'est tout ce que je déteste dans la politique et c'est ce pourquoi je me suis engagée avec cette promesse de changer les pratiques et c'est vraiment la ligne de conduite que je me fixe et si un jour je dévie d'un soupçon de cette ligne, il faudra tout arrêter et que j'espère que les gens autour de moi me le diront, mais je pense qu'on est à l'abri. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nuit à notre démocratie, c'est ce qui nuit à la vision qu'ont les gens et les jeunes en particulier de la politique, c'est que quand finalement l'intérêt général passe après l'intérêt politicien qui est l'intérêt supérieur pour beaucoup d'un personnel politique ancien.
Alors là, le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, avant que le président de la République revienne à Marseille, a présenté un plan pour les écoles. Vous semblez finalement, dites-moi si c'est le cas, approuver le schéma que présente la ville, qui estime qu'il faut investir 1,2 milliard d'euros pour rénover les écoles, en commençant par 80 écoles qui sont dans un état d'urgence. Voilà, bon, ce maire n'est pas de votre bord politique. Peu importe, vous adhérez complètement à ce plan municipal ou il y a des bémols?
Ah non, j'adhère 100% à la fois à la démarche et... Alors après, moi concrètement, je suis pas habilitée à juger du nombre d'écoles et du montant en euros qui est annoncé sur le périmètre financier du plan, parce que j'ai pas fait les calculs avec une... et que j'ai pas travaillé, on va dire, main dans la main avec les équipes pour savoir si c'était 174 écoles ou 180 écoles. Mais en tout cas, ce que je salue, c'est cette démarche, pour le coup extrêmement sérieuse et construite, d'avoir fait l'état des lieux et d'avoir fait des recommandations et d'avoir défini un périmètre d'action avec une chronologie, avec un cadencier. Et puis cette démarche de demander un partenariat avec l'État, de demander de l'aide, mais à la fois de manière constructive, d'être dans la construction donc de cette entreprise publique, de cet établissement rétablissement de l'aspect alien probablement, ou peut-être que ce sera une autre forme juridique, mais en tout cas on se dirige a priori vers ça, vers une entreprise qui sera donc une entreprise partenariale entre l'État et la ville pour rénover ces écoles ensemble. Donc à la fois je salue le travail sérieux, le périmètre qui est proposé aujourd'hui et la démarche, cette envie d'avancer ensemble, pour le coup, au service vraiment de l'intérêt des petits Marseillais pour aller plus vite.
Alors par contre, frustration auprès d'un certain nombre d'acteurs et puis inquiétude au niveau de la mairie, de la ville de Marseille sur le chiffrage, c'est-à-dire que même après la seconde visite d'Emmanuel Macron, on ne sait toujours pas à quelle hauteur l'État, est-ce qu'il va vraiment suivre à hauteur des 1,2 milliards annoncés ou pas. Alors on parle plutôt, certains parlent de 800 millions. Bon, après, il peut y avoir aussi des prêts garantis par l'État. Enfin, c'est pas forcément de l'investissement.
Alors, en fait, il a jamais été question que l'État soit là au rendez-vous à hauteur de 1 milliard 2 sur l'intégralité du plan école, sachant que d'ailleurs, la partie rénovation de ces 1 milliard 2, je crois que c'est 800 et quelques millions, il y a un certain nombre d'autres millions qui sont décernés à l'équipe, qui sont dédiés à l'équipement et à la rénovation de petits entretiens de l'école, etc. Enfin, bref, donc le plan est plus complexe que ce chiffre de 1 milliard 2. L'État aujourd'hui et la ville travaillent pour construire cette société, pour en définir à la fois donc la part financière en subvention de l'État, mais aussi donc les fameux prêts garantis par l'État au sein de cette société qui sera créée, la gouvernance de la société et le périmètre d'action de la société. Donc il y a encore plein d'éléments qui sont en cours de discussion, de travaux avec à la fois les équipes de l'Élysée, mais aussi les équipes de Matignon, de la préfecture ici et les équipes du maire de Marseille. Donc tout ça est en cours de mise à plat, de négociations probablement entre le maire et le président, mais tout ça les regarde. Et ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'État a promis d'être au rendez-vous, l'État le sera. Et donc maintenant, c'est une question de jours, je pense, pour connaître l'atterrissage des décisions qui seront prises.
Alors il y a un point par contre qui a chiffonné pas mal d'acteurs et en particulier les enseignants, c'est une dimension que le président a voulu mettre sur la table au même moment, en même temps, comme il dirait, que le projet de financer la rénovation du bâti, c'est des expérimentations pédagogiques, un projet nommé l'école du futur qui pourrait à Marseille se déployer dans une cinquantaine d'écoles, des laboratoires de liberté et de moyens. Et là, alors, beaucoup d'écoles se sont insurgées, il y a même un appel à boycott, y compris dans l'école qu'avait visité le président de la République, l'école Bouge, 13e arrondissement. Et les mots frappent fort. Enfin, ils disent, nous considérons que ce projet organise de fait la casse de l'école publique républicaine. Et ils appellent à boycotter cette expérimentation d'Emmanuel Macron et de Blanquer. Il y a quelque chose qui a raté là pour vous,
Je pense qu'il y a un gros malentendu en fait sur cette expérimentation.
L'idée, c'est que les gens ont compris que les directeurs allaient pouvoir embaucher leur propre équipe pédagogique. C'est ce qu'il fallait faire.
En fait, il y a plein de trucs qui se sont mélangés au même moment. C'est-à-dire que il y a eu cette annonce du président, il y a eu un texte de loi qu'on a travaillé à l'Assemblée nationale sur la fonction de directeur d'école qui n'avait rien à voir avec cette annonce, mais il se trouve que le calendrier parlementaire a fait que c'est revenu à l'Assemblée à ce moment-là. Donc les gens y ont vu. Ils ont un peu mélangé tout ce qui avait été dit ou entendu et la vérité a rarement été rappelée à ce moment-là, donc je suis ravie d'avoir l'occasion de réexpliquer à la fois ce qu'on a voté et à la fois ce qu'on veut faire. Cette expérimentation dans les 50 écoles marseillaises, vous parlez des écoles qui ont décidé de ne pas y participer ou qui ont fait une levée de bouclier contre l'expérimentation, vous ne parlez pas de toutes celles qui au contraire se sont manifestées spontanément pour être volontaires, parce que en gros ce qu'il faut retenir de cette expérimentation, c'est que ça consacre la liberté pédagogique des enseignants. C'est-à-dire que, donc ça c'est quelque chose qui existe dans le code de l'éducation, les enseignants ont la liberté de décider de la manière dont ils apprennent aux enfants. L'idée là, c'est de dire qu'il y a des endroits dans la ville où, d'ailleurs ça existe dans d'autres villes qu'à Marseille, il y a des endroits où la situation de l'école, le public de cette école nécessite de renforcer les moyens et d'apprendre à ses enfants autrement. Je prends un exemple, il y a des écoles qui sont situées par exemple à proximité d'un camp, d'un bidonville d'enfants roms, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais été scolarisés dans cette école et des enfants qui parlent pas français. Vous pouvez pas apprendre dans une classe aux enfants de la même manière que si vous aviez des enfants qui n'ont pas les mêmes profils. Donc l'idée, c'est de dire, en fonction des besoins spécifiques d'une école, vous avez la liberté, en tant qu'enseignant, de déterminer quel est le projet d'apprentissage de votre école. Donc, par exemple, certains pourront dire, je continue l'exemple sur ces enfants, ben nous, il nous faut des professeurs qui sont professeurs de français langue étrangère, qui pour renforcer l'apprentissage de ces enfants qui n'ont jamais été scolarisés, qui arrivent à l'école à 8 ans et qui parlent pas bien le français. Donc, on va demander un renfort de moyens sur cette dimension-là. Il y a d'autres écoles qui diront, ben voilà, nous, nos enfants, parce qu'ils ont une vie compliquée à la maison, à côté, etc., on a décidé qu'il fallait qu'ils fassent l'école que le matin et l'après-midi, ils vont faire l'école dehors, dans un parc, ou etc. Enfin, je caricature un peu, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut avoir de l'audace et de l'innovation sur la manière de décider comment on apprend aux enfants. On peut se dire, le sport est une dimension importante parce que à travers le sport, on pourra apprendre à faire des maths, on pourra apprendre le français, on pourra aussi apprendre la cohésion, on pourra apprendre à bouger son corps, à accepter son corps. Donc, le fil rouge pédagogique de l'école sera le sport et tout va être décliné autour de ça. Donc, l'expérimentation a la vocation à donner cette liberté aux enseignants de décider ensemble, en concertation, au sein de l'école, entre enseignants et directeurs, de quel est le projet pédagogique qu'ils veulent développer pour l'école. Ensuite, quand tout sera remonté, sera discuté et validé par l'inspection académique, des moyens seront mis en face pour que ces expérimentations puissent avoir jour au sein de l'école. Et là où la question s'est posée et a mis le doute dans l'esprit des gens, c'est la question du recrutement. L'idée, c'est pas que le directeur d'école recrute son enseignant, puisqu'aujourd'hui dans la réglementation ça n'existe pas et nous n'avons pas l'intention de changer la réglementation. Donc on va être à périmètre réglementaire constant, donc c'est l'inspection d'académie qui va recruter les enseignants. En revanche, ce que l'équipe va faire, mes directeurs comme enseignants, c'est de dire, ben voilà, si on a besoin de tout retourner autour du sport ou d'avoir plus de professeurs pour aider les enfants allophones, il va y avoir des profils d'enseignants. Et donc, ils vont déterminer les profils et en fonction de ces profils, bah, soit les compétences sont déjà dans l'école et tout le monde adhère au projet, tout le monde a envie de rester, de travailler ensemble et ça reste comme ça, soit il y a besoin de profils complémentaires et l'inspection académique pourra embaucher des profils complémentaires au sein de cette école.
Des observateurs en fait. Et des acteurs ont eu l'impression que pour le coup, il y avait une espèce de précipitation et que l'académie cherchait à identifier très rapidement une liste de 50 écoles, que les équipes n'avaient pas eu le temps de discuter ensemble. Certains directeurs avaient effectivement demandé à en être, mais pas forcément avec le corps enseignant de l'école. Enfin,
dans les faits, je sais pas, il y a effectivement peut-être eu une première étape d'appel à manifestation d'intérêt, on va dire, pour prendre le pouls du terrain, voir qui avait envie de travailler, d'y réfléchir, etc. Maintenant, les choses se sont structurées. Les écoles volontaires travaillent sereinement sur un temps long à la construction d'un projet qu'ils vont présenter. Il sera ensuite évalué, concerté avec tous les acteurs qui entourent l'école, hein, pas uniquement d'ailleurs les enseignants qui auront proposé le projet, mais aussi les parents d'élèves, les syndicats. Moi, je pousse pour qu'on consulte même plus largement, avoir des acteurs, toujours dans l'esprit de ces alliances sur lesquelles, sujet sur lequel j'ai travaillé, mais on y reviendra peut-être après, pour que effectivement, des acteurs de la société civile qui sont pas des spécialistes de l'éducation, mais qui, il n'empêche, peuvent avoir un regard très intéressant, très audacieux, très innovant sur ces questions, puissent aussi challenger ces projets et les faire mûrir pour qu'on arrive à des expérimentations vraiment intéressantes pour les besoins de l'enfant. En fait, c'est ça qu'on essaie de faire depuis 5 ans dans le domaine de l'éducation, c'est donner plus aux enfants qui ont le plus besoin. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les REP et les REP+. Là où il y en a besoin de renfort, on met des moyens supplémentaires.
Oui, il y avait des effets pervers aussi, par exemple à Marseille, des classes doublonné, mais dans le même bâti, et donc du coup, de l'exiguïté.
Qui est un effet pervers
des bibliothèques
ici,
fermées,
bien sûr,
etc.
Qui n'a pas eu les mêmes effets dans d'autres endroits où la question se posait pas. C'est vrai, c'est compliqué, mais c'est toujours le problème quand on a des politiques nationales qui impactent du coup le territoire de la même manière, enfin, pour mettre en œuvre la politique publique, mais l'impact concret n'est pas le même en fonction de la réalité de terrain des villes dans lesquelles elle se met en œuvre. Donc effectivement, Marseille, parce qu'on a un bâti très contraint, avec beaucoup d'écoles dans le centre-ville, enfin, je veux dire, Marseille a 470 écoles, la ville de Lyon, qui est notre grande ville comparable à Marseille, en a moitié moins. Donc vous voyez l'enjeu pour une ville comme Marseille de pouvoir absorber et mettre en œuvre ce type de politique. Donc je dis pas que tout est parfait, sauf que j'essaie de démontrer qu'effectivement, l'idée derrière ces expérimentations est la même que derrière ce dédoublement, c'est de dire, quand il y a plus de besoins en endroit, on met plus de moyens. Et pour le faire intelligemment et justement avec moins d'effet de bord, il faut le faire dans la dentelle, c'est-à-dire au plus près de ceux qui connaissent le terrain et les besoins et qui le font remonter en fait.
Alors, autre dossier, parce qu'on a, on a qu'une heure, hein, donc il faut prendre le train ou le transport en commun. Ça me permet de faire une transition un peu foireuse, mais on y va.
Non, elle est pas mal.
Les transports, voilà. Les transports, autre gros sujet, hein, sur la table, dans ce plan, avec, là aussi, une ambiguïté pour l'instant sur le périmètre de ce qui est, de ce que va être ce chantier. En particulier, est-ce qu'il s'agit de financer et de programmer, d'accélérer la réalisation de ce qui avait été déjà imaginé, à savoir quatre lignes de tram, 5 bus à haut niveau, ou alors de réorienter, en particulier pour rééquilibrer la ville avec, on le sait, un déficit de transport public entre le nord et le sud de la ville.
Mais je crois que le président, il a été clair. Après, les réponses qui ont été faites par certains élus dans les médias n'engagent qu'eux, mais la demande du président, elle est très claire. L'argent de l'État ira là où ça permet de faire progresser la ville et la métropole en termes de mobilité, et notamment avec une exigence forte qui est de désenclaver les quartiers nord. Donc, si la réponse n'est pas celle-là, je pense que l'argent annoncé n'ira pas servir à notre objectif. Donc, voilà.
Là, clairement, il y a une responsable politique, Martine Vassal, à la tête de la métropole, hein, qui est en charge le dossier des transports, qui, effectivement, flèche, hein, le milliard attendu vers l'extension des lignes existantes. Il y a un projet, par exemple, d'une quatrième ligne de tram, réformée Belle de Mai. Vous êtes partisan, vous on parle des réformés, donc on est dans votre circo d'aller sur ce type de chantier.
Mais après, il faut étudier le dossier dans l'ensemble. Il y a des priorités, il y a une enveloppe budgétaire et des priorités à identifier. Alors, je vais pas vous dire que moi, je suis contre le fait de faire un tram qui desserve le centre-ville de Marseille entre les réformés et la Belle de Mai, qui est aussi un peu effectivement enclavé, qui a besoin d'être mieux desservi. Donc oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est prioritaire? Je peux pas vous répondre aujourd'hui. Peut-être qu'il faut d'abord penser à désenclaver le 15e, 16e arrondissement qui sont moins bien desservis que faire une ligne de tram supplémentaire, celle-là ou celle des Catalans d'ailleurs, hein. Donc si on peut tout faire, évidemment je suis pour, mais je suis pas capable de vous dire aujourd'hui si c'est la priorité.
Donc là, la gestion va se faire normalement par un groupement d'intérêt public de ce chantier-là. À nouveau, un organisme comme ça, est-ce qu'on assiste à une forme de, c'est ce qui circule, c'est les questions qui circulent, à une forme de mise sous tutelle de la ville de Marseille et de sa métropole avec ce chantier?
Non, moi je vois pas ça comme une mise sous tutelle. C'est une manière de construire des partenariats, des collaborations qui sont à mon avis un mode de réponse le plus adapté aux défis que nous connaissons aujourd'hui, sur toutes les thématiques d'ailleurs, sur tous les grands défis. Et aujourd'hui, c'est plutôt une posture intéressante à la fois de la part de l'État, mais aussi des collectivités qui sont demandeuses et très plutôt contentes de pouvoir travailler avec un renfort de l'État. Et quand je parle de renfort, on n'est pas que sur un renfort financier d'ailleurs, hein, on est aussi sur un renfort d'ingénierie, hein. Si on revient une minute sur la question des écoles, la société, elle n'a pas vocation à apporter que de l'argent. L'État n'a pas vocation à apporter que de l'argent dans cette société. C'est aussi un renfort en ingénierie.
On va revenir sur la gouvernance.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
On est déjà à la moitié de l'émission et comme d'accoutumée, notre invité a choisi un titre et il s'agit de Ben Mazuet, Quand je marche.
Où j'envoie ces lettres, Faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Il faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend, tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Et ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, j'arrête de me presser. C'est quoi? C'est le cri de la députée en
marche. En burn-out.
En burn-out.
Non, non, j'aime beaucoup cette chanson. Effectivement, on passe sur ce message-là de lâcher prise. Bah, de tout lâcher de temps en temps. C'est important d'arriver à se préserver des moments. Famille, de yoga, lui il va courir, il va marcher. Moi, je vais plutôt faire du yoga. Enfin, voilà, des moments pour soi. Et d'arrêter de penser.
Bon, je lâche pas complètement l'affaire avec l'histoire de la gouvernance de Marseille, de sa métropole. C'est quand même le nœud. On a l'impression de ce qui va se passer ou de ce qui va pas se passer avec ce grand plan, avec la complexité de la gouvernance, avec un bras de fer permanent entre une ville et sa métropole. Trois maires de secteur, par exemple de droite, hein, dans le sillage de Benoît Payan, lui-même réclame de récupérer toutes les compétences de proximité du quotidien, la propreté, la gestion des encombrants, le petit entretien de la voirie, l'entretien de l'éclairage public, enfin tout ce qui fait la proximité. Est-ce qu'il faut aller vers ça pour vous, sachant que votre mouvement quand même a plutôt été partisan d'une intégration métropolitaine jusqu'à présent?
Alors, le sens de l'histoire, c'est l'intégration métropolitaine. Ça marche ailleurs. C'est important de pouvoir structurer un territoire avec justement une métropole solide, forte, bien construite et acceptée des citoyens métropolitains parce qu'ils en ont compris le sens. Aujourd'hui, le problème de la métropole, c'est qu'elle a été un peu faite au forceps pour pas trop déplaire au maire, on a fait un espèce d'entre-deux en laissant ce millefeuille au milieu des conseils de territoire, qui lui donne donc un pouvoir d'exécutif aux maires qui font partie de ces conseils de territoire. Aujourd'hui, il faut qu'on donne du sens à une métropole qui a vocation à n'agir que pour l'intérêt métropolitain. Donc au final, il va falloir réfléchir à une remontée de compétences et à une descente de compétences. C'est-à-dire que les compétences métropolitaines, les compétences stratégiques, les transports, la mobilité, le logement, ça doit être des compétences qui sont remontées parce qu'elles sont d'intérêt métropolitain. En revanche, les autres, elles ont vocation au cas par cas, en fonction des attentes et des besoins de chacun. Et c'est là où c'est compliqué, parce que tout le monde, chaque commune n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins, de pouvoir faire redescendre des compétences de proximité. Donc c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui en interne, hein, par les équipes de la métropole, les élus de la métropole, pilotés par Martine Vassal, qui mène ses concertations métropolitaines et qui doit proposer un atterrissage si elle y arrive. Et puis si elle n'y arrive pas, ou si elle a de toute façon besoin qu'on passe par la loi, puisque globalement, comme la métropole a été créée par la loi, nous devons agir par la loi pour modifier les différents éléments, on le fera dans le cadre de la loi 3DS au mois de décembre. Donc oui, il y a besoin de pouvoir agir en proximité pour les communes et de reprendre la main sur un certain nombre de compétences. Toutes n'auront pas envie de reprendre les mêmes compétences. Et quand on reprend les compétences, il faut aussi pouvoir prendre à sa charge les frais qui vont avec. Donc l'enjeu, il n'est pas que de dire « ah ben je veux moi récupérer la gestion de mes déchets », parce qu'il faut avoir les moyens financiers aussi de le faire.
Les fameux 6 conseils de territoire, c'est un échelon de trop, il faut le faire sauter ?
Bah, ça sera pas le cas aujourd'hui, c'est prématuré, tout ça se fera probablement à long terme dans le cadre d'une réforme plus complète de la métropole, une fusion avec le département probablement qui a été annoncée, en tout cas la réflexion avait été amorcée en début de mandat, on n'est pas allé au bout de la chose, je le regrette à titre personnel, je pense qu'on aurait dû, une fois que le rapport du préfet Dartout était fait, aller vers ça, peut-être que la collectivité n'était pas mûre à cette époque-là, néanmoins aujourd'hui, il n'est pas question de remettre en cause les conseils de territoire, ils sont là et on va pas toucher à ça à court terme, mais malgré leur présence, on va dire, ou avec leur présence, il faut arriver à structurer autrement la métropole pour qu'elle se concentre sur ses prérogatives, à savoir l'intérêt métropolitain, des projets structurants pour l'ensemble du territoire, et pas des fléchages ponctuels sur des sujets qui ne finalement un sujet à Aubagne qui ne va pas concerner la ville de La Ciotat, quoi.
Alors il y a un autre sujet là dans cette histoire qui fait gloser et qui interroge, qui fait réagir, c'est cette fameuse aide aux communes. Alors on appelle ça l'attribution compensatoire. C'est en fait c'est une somme considérable. Hein. C'est 700 millions d'euros que la métropole reverse aux communes. Mmh. Et d'aucuns disent depuis fort longtemps qu'il y a une gestion clientéliste de ces sommes-là.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Parce que ça sert d'injecter des milliards pour Marseille si ça repart dans ces tuyaux-là ?
Elles ont été faites, ces attributions de compensation, constituées pour effectivement ne pas trop froisser les maires au moment où on a créé la métropole. Donc elles ne sont pas pensées et distribuées aujourd'hui en fonction de l'intérêt métropolitain de ce à quoi doit servir le financement. Donc finalement les communes s'en servent pour travailler leur fiscalité, améliorer leur fiscalité, travailler sur des projets qui concernent leur commune, mais comme je disais, un projet à Aubagne ne va pas concerner celui de La Ciotat. Donc aujourd'hui, on est sur un endroit où ces attributions sont bien plus élevées que dans d'autres métropoles en France et ne servent pas l'intérêt métropolitain. Donc il faut avoir la lucidité de dire que ça n'a plus vocation à être utilisé de cette manière pour servir ces objectifs-là. Voilà. Donc tout ça doit se faire en concertation, en réflexion, mais il faut que les élus du territoire prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Alors bon, quand je dis ça, pardon, que je sois précise, parce qu'après on va me faire dire ce que j'ai pas dit, il n'est pas question de les supprimer, ces attributions de compensation. Il faut juste qu'elles soient repensées pour qu'elles atteignent l'objectif pour lequel elles sont faites. Donc il faut les redéfinir et peut-être les plafonner, les encadrer pour qu'elles remplissent leur objectif. Parce que tout ça, l'enjeu derrière, c'est quoi ? C'est de que la métropole retrouve une forme de souveraineté financière pour qu'elle puisse investir. Parce que si l'État arrive, l'État abonde, notamment sur la question des mobilités, il faut que la métropole soit elle-même en capacité d'investir aussi. elle peut pas compter que sur un apport extérieur. Donc il faut qu'elle puisse s'auto-financer. Et pour faire ça, il faut qu'elle revoie sa propre gestion interne. C'est finalement la feuille de route qui a été demandée par le président à la présidente de la métropole.
On va pas pouvoir faire tous les points qui sont sur la table avec ce plan. Il y a un volet sécurité qui semble faire un plus consensus. Et 300 nouveaux policiers d'ici 2022, 150 millions d'euros pour un nouveau hôtel de police au nord de Marseille, rénovation aussi de l'évêché, reconstruction plutôt. Une mesure aussi, et qui pourtant fait débattre, hein, 500 nouvelles caméras de vidéosurveillance alors que les rapports se multiplient, s'enchaînent pour dire que bah, c'est peut-être pas ça dont on a besoin de caméras pour sécuriser les quartiers. Enfin, il y a plein de doutes là-dessus. Et pourtant, alors les En Marche, à droite, à gauche, tout le monde finit par s'appeler ça. Vous aussi, ça vous plaît, les caméras de vidéosurveillance
Non, ça pas
est-ce qu'on peut,
plaire
est-ce qu'on
ou
peut
à me
être
déplaire
de la République et s'interroger sur ce type de dispositif qui même il y a même des syndicats de policiers qui disent mais nous on a besoin d'autre chose que ça.
En fait, je pense que ce qui est important c'est d'être assez souple entre guillemets et de le faire évoluer en fonction des besoins. Donc c'est ce vers quoi on se destine aujourd'hui avec des caméras qui sont mobiles. La critique qui est faite aux caméras de surveillance quand elles sont placées, c'est quand elles sont fixes qu'au final bon ben voilà, une fois qu'elles ont été identifiées et que le problème s'est déplacé ailleurs, bon ben la caméra elle est posée, elle sert plus à rien. Là, l'idée c'est d'être capable de les travailler intelligemment, d'ailleurs dans le cadre d'un contrat sécurité intégrée que la ville de Marseille signe avec la préfecture de police en ce moment, ils sont en train d'atterrir ou ils ont atterri récemment, je ne sais pas, pour justement travailler main dans la main sur les endroits où on les met et voir comment est-ce qu'elles peuvent être le plus mobiles possible pour que ce soit évolutif. Donc après, je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui il y a un consensus sur le fait que c'est nécessaire, puisqu'aujourd'hui même la ville de Marseille est satisfaite de la manière dont l'État vient lui apporter ce renfort de moyens.
C'était pas dans leur programme. Mais...
C'était pas dans leur programme, mais au final, comme quoi, on s'adapte.
Marseille est endeuillée hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois par des règlements de compte. C'est pas nouveau, mais ça prend une proportion. Alors, c'est pas spécialement dans votre circonscription, mais cette ville, face à ce fléau, là, votre réaction, c'est de dire c'est quoi ? Il faut plus de police, ou alors il faut travailler sur les causes économiques et sociales qui font que. La situation est telle qu'elle est.
Ouais, c'est forcément des éléments de réponse qui sont complexes et nombreux sur une question aussi lourde. Il y a probablement une première réponse qui est de l'ordre de la sécurité, un renfort de moyens pour démanteler les réseaux et agir donc sur ce levier-là, et puis de la répression, etc. Bon, bref, tout ça on connaît, on fait, il faut intensifier, mais pour moi, évidemment, avec mon regard qui est évidemment porté sur l'éducation, il faut travailler plutôt sur les causes. Et je pense que la réponse du président avec Marseille en grand, notamment sur la dimension emploi, carrefour de l'entrepreneuriat, plateforme unique pour les jeunes, capital entreprendre pour les jeunes, etc., va dans ce sens-là. C'est de dire quand on n'a pas d'opportunités, quand on n'a pas de perspective, quand on n'a plus de rythme parce qu'on vit et qu'on se lève à 14 heures, et qu'on vit du trafic, on est exclu d'un monde et que finalement, remettre le pied à l'étrier de ces jeunes en leur offrant des perspectives, c'est la réponse à apporter. Et puis surtout, ce qu'il a dit et ce en quoi je crois, c'est que c'est à nous d'aller les chercher. C'est pas, il faut faire. C'est qu'aujourd'hui, on travaille sur tous les sujets, sur ce qu'on appelle le aller vers, et sur cette question-là, c'est particulièrement important. C'est un devoir de l'État, un devoir des collectivités d'aller chercher ces jeunes et de les accompagner par de la formation, par de l'insertion sociale et professionnelle vers un destin. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer. En tout cas, l'engagement de ce qu'on a été en 2017 et des politiques publiques qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est de permettre à chacun de choisir et de faire ce qu'il a envie de faire. Donc tout le monde ne part pas avec les mêmes moyens, avec le même milieu, avec les mêmes dispositions. Tout le monde a des freins. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est petit bout par petit bout et endroit par endroit de lever ces freins. Donc là, aujourd'hui, sur cette question-là, à Marseille, il y a effectivement beaucoup trop de jeunes qui sont très éloignés de la société, de la vie en société, et qu'il faut ramener vers l'emploi, vers la formation. Et donc il y a un grand volet dans Marseille en grand qui répond à cette problématique-là, et c'est une réponse aux difficultés, évidemment des réponses de long terme, mais aux difficultés que peuvent connaître les quartiers aujourd'hui, où quand on n'a pas de perspective, on est en déshérence, c'est assez évident.
Je l'ai dit dans le portrait, j'ai rappelé que pendant votre campagne, vous revendiquiez des valeurs de gauche. Si je dis que vous vous situez à l'aile gauche des élus En Marche à l'Assemblée nationale, c'est une catégorisation qui vous agace, ou vous dites non, ben oui, pourquoi pas, effectivement.
Pas du tout, pourquoi ça m'agacerait, c'est vrai.
Je sais pas, je pose la question.
Ben non, c'est vrai.
Donc vous assumez cette histoire-là, parce qu'il y avait l'idée de dépasser la droite et la gauche et de...
Ah ben, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de dépasser. L'idée de dépasser, ça veut dire qu'on peut travailler avec des gens qui sont eux plutôt de droite. Mais moi, je viens d'une sensibilité de gauche. Je vais pas dire le contraire, et je le cultive et j'en suis fière et je continuerai. Mais l'idée du dépassement, c'est de dire qu'il y a des idées bonnes partout et que donc on n'est pas sectaire et que donc on est capable de travailler ensemble, même si on pense pas la même chose au départ, et on peut s'apporter des éléments, des idées, des perspectives. Donc c'est ce qu'on fait à La République En Marche.
Alors on en parlait beaucoup des dossiers marseillais, mais vous êtes élu à l'Assemblée nationale, donc vous faites la loi. Et il y a un calendrier électoral qui approche, avec une présidentielle, et puis derrière il y aura des législatives. D'aucuns jugent que l'équilibre, en même temps, il n'est pas au rendez-vous finalement de ce mandat, et que finalement... Macron a déporté sa politique à droite.
Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Je constate, hein, comme vous, je vois bien ce qui en est raconté, ce qui est dit et comment les gens perçoivent les choses. Je pense qu'il y a énormément de mesures sociales qui ont été mises en œuvre et dont on parle assez rarement. Et qu'au final, moi qui ai donc une sensibilité de gauche plutôt, puisqu'on vient d'en parler, j'ai aucun regret par rapport à ce qu'on a fait. Si on doit faire 2 minutes de bilan, je pense qu'effectivement, je suis très satisfaite. Non, j'aime pas dire ça, mais pas tout bien fait. On a des choses qui doivent être mieux travaillées et qui doivent être prolongées, mais j'ai pas de difficulté à assumer les mesures qu'on a mises en œuvre, et notamment un certain nombre de mesures dont on parle jamais. Je vais citer un exemple. On a mis en place en début du mandat un grand plan de lutte contre la pauvreté. C'est inédit, ça n'a jamais été fait dans cette dimension-là. On a nommé dans chaque région des hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté qui mettent en œuvre très concrètement et très localement toutes ces mesures qui touchent à la fois l'école, l'emploi, la santé, etc. On entend rarement des choses pour mettre en avant ce plan de lutte contre la grande pauvreté, qui est pourtant un effet de levier énorme sur les territoires.
C'est peut-être l'effet qui se coule en même temps, mais une mesure très symbolique du mandat, une des premières prises, c'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. J'en parle parce qu'il y a un rapport publié.
C'est pas la suppression, c'est sa transformation.
Sa transformation en impôt sur la fortune immobilière.
C'est la complexité.
Il n'empêche, il y a un rapport publié donc par un organisme d'évaluation rattaché à Matignon. Donc c'est pas LFI qui fait circuler. C'est pas Mélenchon qui raconte ça, qui dit que cette réforme n'a pas eu d'effet sur l'investissement et que, objectivement, la concentration des dividendes chez les plus riches s'est accrue. Au bout de ce mandat, les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres.
Alors, j'ai pas lu ce rapport, et moi, alors, je suis absolument pas dogmatique sur cette question. C'est-à-dire que quand on a pris cette décision et donc on l'a votée, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que déjà, donc, c'est pas une suppression, c'est une transformation qui avait vocation, donc, à libérer l'argent permettant justement d'être investi, donc de pouvoir bénéficier par effet de ruissellement, comme on dit, aux plus fragiles, etc. Mais par contre, ce qu'on a dit quand on l'a voté, c'est que on évalue, si ça marche pas, on arrête. Donc moi, j'ai absolument aucun état d'âme sur la question.
Si vous aimeriez qu'Emmanuel Macron finalement revienne sur cette décision?
Ah ben, je peux pas dire aujourd'hui qu'il faut revenir dessus, mais en tout cas, ce qu'on a toujours dit et on va le faire, c'est de l'évaluer, de la mesurer. Si elle a pas l'effet escompté, y a aucun souci pour moi à pousser, à avancer l'idée qu'il faille revenir dessus. Si elle rencontre pas son objectif. Après, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque je ne connais pas l'évaluation encore du dispositif. Mais si c'est le cas, Il faudra être lucide et honnête. C'est ce qu'on essaie d'être, je pense, la plupart du temps sur les mesures qu'on vote.
Autre élément de l'actualité législative, c'est depuis le 1er octobre la réforme de l'assurance chômage qui durcit les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi alternant CDD et inactivité. Or, 1,2 million de salariés risquent de voir leur allocation journalière baisser en moyenne de 17% dans un contexte social qu'on connaît très bien post-Covid. Il y a eu des recours au Conseil d'État, les syndicats refont un nouveau recours. Vous regardez ça comme une erreur aussi, c'est quelque chose qui...
Non, mais parce que là aussi, là, les choses sont plus complexes que la manière dont elles sont présentées. En fait, il n'y a pas de perte dans le long terme. C'est-à-dire que il faut regarder les choses dans leur ensemble.
Alerte le gouvernement en disant, attention, en période difficile, on va faire peser une charge, une baisse de revenus sur les plus fragiles.
Oui, c'est la partie du moment où c'est mis en place qui effectivement peut alerter. Mais dans le fondement de la réflexion et de la réforme telle qu'elle est construite, qu'il faut aussi mettre en perspective d'une réforme sur la formation professionnelle tout au long de la vie, etc., qui est mise en œuvre, c'est un ensemble de mesures qui trouvent une cohérence et qui, dans leur ensemble, ne vient pas du tout au détriment du salarié ou de la personne qui cherche un emploi. Au contraire, il y a un accompagnement massif qui est fait pour remettre les gens vers l'emploi.
Est-ce que cette alliance là que vous revendiquez entre associations, entreprises, pouvoirs publics au service de l'intérêt général, est-ce qu'elle peut se faire justement si sur des grandes décisions macroéconomiques, on demande toujours aux plus petits finalement de faire l'effort et on protège le haut de la pyramide, les fameux premiers de cordée. Pour vous, il n'y a pas de...
Mais c'est pas ce qu'on fait. Vous m'avez challengé sur des exemples, notamment la transformation de l'ISF en IFI, qui est effectivement une mesure favorable aux premiers de cordée, en espérant que les premiers de cordée se saisissent de cette responsabilité, je caricature un peu, mais et investissent dans l'économie pour que ça profite aux plus fragiles. Mais enfin, on a mis en place un certain nombre de mesures directement au profit des plus fragiles, avec des mesures
de... L'assurance chômage, c'est la même chose. C'est cette logique qui consiste à dire... Il faut que le travail reste le plus rémunérateur. Il ne faut pas que les gens... Il y a cette idée très classique que finalement les chômeurs seraient un petit peu fautifs et il ne faut pas les assister.
C'est pas la question de mettre le doigt de monter du doigt les chômeurs et qu'ils soient fautifs de quoi que ce soit, pas du tout. C'est de dire qu'effectivement, les gens préfèrent avoir un travail que ne pas avoir de travail, en fait, la plupart des gens.
Oui.
Donc, ils sont, c'est important de mieux valoriser le prix du travail, le revenu du travail. Donc, ces mesures vont dans ce sens-là.
Encore une loi débattue cette semaine, celle sur le pass sanitaire. Alors là, vous assumez la mesure. Le gouvernement estime qu'il est nécessaire de se prémunir de nouveaux rebonds de l'épidémie et que donc il faut prolonger une fois de plus ce pass sanitaire. Et là, y compris dans votre majorité, il y a des gens qui se posent des questions sur cette accoutumance finalement à un état d'urgence exceptionnel qui pourrait devenir la norme en fait et qui grignote finalement les libertés publiques. Pour vous, on est dans les rails ou il faut être vigilant?
Alors, on n'a pas encore débattu de cette question-là, ni en interne, puisque le texte de loi va arriver là cette fin de semaine. Donc on va effectivement y travailler au sein de notre groupe parlementaire et avancer, apporter des réponses par rapport au texte de loi qui est aujourd'hui proposé en l'état par le gouvernement. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que concrètement, on va rentrer en période de où le Parlement ne va plus siéger à partir du mois de février, qu'on sera donc au cœur de l'hiver et qu'on ne peut pas prendre de risques. Et attendre qu'un nouveau parlement soit mis en place en juillet de l'année d'après. Donc je pense qu'il y a des enjeux de cet ordre qui est de garantir au gouvernement la capacité à agir s'il y a besoin à agir. Après, personne n'est satisfait, ne se satisfait d'être dans une crise sanitaire de cette envergure qui impose donc des contraintes sanitaires qu'on connaît tous depuis 2 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même se satisfaire d'avoir retrouvé une forme de vie, de liberté, de de vie quotidienne quasi identique à notre vie antérieure grâce à la vaccination et grâce à la mise en œuvre de ce pass sanitaire qui permet de pouvoir retrouver notre vie culturelle, loisirs et puis professionnelle aussi, etc. Donc, si on a besoin d'outils pour maintenir cette situation-là, prenons-les, votons-les, et personne n'a la volonté ni l'intérêt à faire perdurer un État qui ne se justifierait pas trop longtemps. Donc, c'est plus de la prévoyance pour l'hiver que volonté de faire durer les choses trop longtemps.
D'accord. Donc, toujours dans le groupe majoritaire, mais avec votre singularité, vous êtes bien dans vos baskets de marcheuse. Le groupe en LRM à l'Assemblée nationale, il a perdu hein, des troupes. Il y a eu 44 départs. Vous étiez 314 au début. Vous êtes 270 aujourd'hui. Vous n'avez plus la majorité absolue, y compris même dans les Bouches-du-Rhône ou chez nos voisins des Hautes-Alpes. Il y a eu des départs, des gens qui ont repris leur autonomie parce qu'ils étaient parfois en interrogation sur des choix pris par le gouvernement. Pour vous, le Contillé, vous êtes toujours une marcheuse convaincue et dans le peloton de tête.
Je suis fidèle à mes convictions en fait et aux valeurs que je défends et que j'ai envie de porter. Ce mandat m'a permis de les porter, de les faire avancer. Donc j'ai aucune raison de ne pas être satisfaite ou de vouloir tourner le dos à un groupe qui m'a fait confiance et qui me permet de travailler sur les sujets que je choisis de travailler, qui aujourd'hui fait avancer les dossiers que j'ai sur lesquels j'ai mis le doigt. Quand on est Marseillaise élue à Marseille, qu'on travaille sur le sujet des écoles, je peux pas vous dire aujourd'hui que je n'ai pas été entendue et que les choses ne vont pas dans le sens vers lesquels j'ai demandé à ce qu'ils aillent. Donc j'ai aucune raison de ne pas être toujours fidèle à la fois à mes convictions et au projet auquel j'ai cru et qui aujourd'hui, à mon avis, va dans le bon sens.
Certains de ces députés marcheurs comme vous qui viennent de la société civile et qui ont découvert ce monde de la politique, cette machine complexe, très complexe de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, ont été un petit peu déçus par la lourdeur justement de la machine, par la complexité des rapports de force politique, par y compris même au sein de la même famille politique. Quel est votre regard, avec le recul qui est le vôtre hein, aujourd'hui et au moment où il va falloir se poser la question, peut-être de rempiler ?
Je comprends hein, ces frustrations et ces difficultés rencontrées. Je les ai vécues aussi, je les vis toujours. C'est notre quotidien, mais si c'était un mandat simple, ça se saurait. C'est peut-être encore plus compliqué justement quand on n'a pas fait de la politique avant. Après, ça nous donne une fraîcheur, un regard sur les choses qui nous permet de garder du recul et une forme de virginité dans l'évaluation des choses et de la manière de faire des gens qui nous entourent. C'est frustrant pour différentes raisons, parce que le temps politique est un temps long, parce que quand on est législateur, on structure finalement l'avenir. Mais la mise en œuvre concrète, avant que la loi soit promulguée, qu'elle arrive et qu'elle impacte, qu'elle soit mise en œuvre dans le territoire et qu'elle impacte concrètement le quotidien des gens, bah, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Donc c'est à la fois un temps qui est difficile parce qu'on doit expliquer ce qu'on a fait et montrer en quoi ça va changer la vie des gens. C'est un peu frustrant quand on a travaillé effectivement sur des postes plus opérationnels où on avait l'habitude d'être utile très vite ou de voir les choses changer très concrètement très vite. Bon ben là, on est obligé de s'adapter à un temps plus long. Et puis oui, après il y a la dimension très politicienne, partisane des choses, qui est, pour tout vous dire, pas mon dada. Moi, ce que j'aime, c'est les alliances, c'est faire avancer les sujets. Donc à partir du moment où je trouve des gens, même s'ils pensent pas comme moi au départ, pour travailler avec moi et faire avancer les choses, c'est la seule chose qui m'intéresse.
Alors l'émission va bientôt se terminer. Vous êtes partante pour un deuxième mandat. Vous avez besoin de temps. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, entre autres.
J'ai effectivement besoin de temps pour que les choses avancent. Donc du coup, j'ai très envie d'un deuxième mandat. Et il y a après beaucoup d'étapes à franchir d'ici que la question des législatives se pose. Mais oui, parce que le temps est long, on a enclenché des trucs qui sont pas finis et j'ai bien envie de les terminer.
Je vous remercie et à bientôt.
Merci
pour
à vous.
Une prochaine émission.
À bientôt.
Bye bye.
La grande tchatche.